On entame la période de questions avec Bernard, des questions que vous lui posez. Alors, j'essaie autant que possible de prendre toutes les questions qui sont ici, si le temps nous le permet, puisqu'à 11h, on est obligé de quitter les lieux. J'élimine que les questions concernant la vie privée de Bernard. Alors, il ne s'agit pas de faire un trip sur le nombril de Bernard. Alors, tout ce qui concerne les sortes de céréales que Bernard mange le matin, on oublie ces choses-là. Alors, on se lance immédiatement. Il y a quand même pas mal de questions, alors Bernard, des réponses assez courtes et précises. L'homme peut-il espérer une aide de la part de Shambhala afin d'atteindre cette lumière? Si oui, de quelle façon? Sinon, pourquoi?
Bon, cette question, c'est une question philosophique, c'est une question qui concerne l'humanité. Est-ce que les hommes peuvent s'attendre à une aide de Shambhala? Oui. Est-ce que l'individu peut s'attendre à une aide de Shambhala? Oui, selon l'ouverture de son esprit. Plus les êtres auront un esprit éveillé, ouvert, autrement dit, moins les êtres seront prisonniers des formes traditionnelles de leur éducation à tous les niveaux, plus ces êtres-là auront une vibration qui leur permettront d'entrer en contact avec cette énergie. C'est un problème d'énergie, ce n'est pas un problème psychologique ni spirituel.
Il est très difficile de trouver par soi-même la voie ou tout ce qu'il faut pour arriver là où tout le monde aspire. Est-il possible d'avoir un maître?
Il y a dans le monde des maîtres qui travaillent, qui œuvrent pour l'humanité, pour l'évolution de l'humanité, et ces maîtres, sur le plan individuel, rendent de très grands services à l'homme. Et tant que ces maîtres seront sur le plan matériel et aideront l'humanité, c'est parce que l'humanité aura besoin de cette aide. Plus l'homme, en tant qu'individu, avance vers la fin du cycle, plus il entre dans la vibration, sa propre vibration, et à ce moment-là, il n'a plus besoin de l'aide extérieure, mais fonctionne en relation avec sa propre énergie interne qui le prépare à entrer en communication avec cette énergie. Le contact entre l'homme et le maître, c'est encore au niveau psychologique, spirituel, philosophique. Ensuite vient le point où l'individu entre en contact avec sa propre énergie lorsque les centres s'ouvrent, et à ce moment-là, il va, de par lui-même, de par sa propre énergie, vers cette énergie.
Ici, c'est une question qui est signée de Louise Bellil. On sait qu'elle est professeure au cégep du Vieux-Montréal en parapsychologie. Où se situe un gourou dans le processus dont vous avez parlé?
Le gourou fait partie de ces hommes qui ont une évolution spirituelle avancée et qui aident à l'évolution de l'homme en relation avec un karma positif qu'ils ont développé au cours de l'évolution. Les gourous, les maîtres, les hommes font partie d'une même énergie de l'humanité. Une certaine de ces énergies, telles que l'on retrouve dans le cas des gourous, sert à l'évolution de l'homme, mais le gourou, le maître et l'homme, qu'il soit profane ou non, doivent un jour entrer dans cette énergie. Et lorsqu'ils seront dans cette énergie, ils entreront en contact avec les forces de Shambhala. Les gourous, les maîtres, sont des aides à l'humanité, ce sont des êtres précieux pour l'homme. Ce que l'homme doit comprendre, c'est que lorsqu'il entre en contact avec l'énergie de Shambhala, il est seul. Il est préparé par les maîtres, et quand il est préparé, il a une autre étape dans sa vie qui sonne, et là, il est seul.
Le roi du monde sera-t-il le dernier à quitter la Gartha? Et que deviendra le roi du monde?
Le roi du monde, lorsqu'il aura terminé ses activités sur la Terre, sera transféré dans une autre partie de la galaxie. Mais le roi du monde ne quittera pas Shambhala, la Gartha, avant la terminaison du conflit de l'Armageddon.
Le conflit de l'Armageddon fait allusion à l'Apocalypse?
Non. L'Apocalypse, c'est la fin du cycle de la cinquième race et l'augmentation de la conscience vibratoire cosmique sur la Terre. Et l'Armageddon, c'est le conflit entre les forces de Lagartha et de Shambhala qui se produira à la fin de la sixième race, au début de la septième race, lorsque l'homme sera rendu au cycle de l'homme-esprit et qu'il aura commencé son évolution jupitérienne.
Une bonne nuance, il y a beaucoup de gens qui confondent les deux. Bernard, vous avez déjà mentionné que vous parleriez en public jusqu'en 1984. Pourquoi vous interrompriez-vous après? Est-ce la fin ou le commencement de quelque chose?
Je cesse en 84 parce que en 84 je serai fatigué. Et je commence en 84, c'est-à-dire que je continue en 84. Je cesse pour continuer, mais je ne ferai plus de commentaires publics. Je m'en vais en Floride.
Est-ce que Agartha représente l'enfer et que Shambhala représente le paradis?
L'Agartha, c'est la conscience créative. L'enfer, il y a trois enfers dans notre système solaire. Et le centre de la Terre fait partie de l'enfer, Pluton fait partie de l'enfer et le corps astral de l'homme fait partie de la conscience de l'enfer. Alors, l'Agartha est lié à ces trois centres-là. Shambhala, c'est le paradis terrestre, c'est-à-dire que c'est une dimension qui est liée à la Terre et qui est parfaite et qui est dirigée par des êtres de lumière pour l'évolution de l'homme vers la lumière et la construction d'une science parfaite.
On parle de lumière ici, ceux qui travaillent à l'Hydro-Québec. Une lumière de 100 watts éclaire-t-elle plus qu'un néon de 3 pieds?
Il faudrait que je retourne à l'Hydro-Québec pour apprendre.
Ça dépend sur quel courant il est branché. C'est rien que du 50 watts qui rentre dans la lumière de 100 watts. Ça ne donnera rien que 50 watts. Que faut-il faire pour se libérer des formes et ne plus penser?
Très bonne question. Le mécanisme qui permet à l'homme de réaliser ceci est très simple. Lorsque l'homme réalise que ce n'est pas lui qui pense, tant que l'homme ne réalise pas que ce n'est pas lui qui pense, mais que ça pense en lui, que l'énergie passe en lui, et que sa pensée subjective est la formulation de l'énergie par son cerveau, il commence à réaliser l'illusion de la forme de la pensée, et éventuellement, il s'établit une communication entre son mental inférieur et le supramental. Mais tant que l'homme, tant que l'humanité pensera qu'elle pense, elle sera dans l'illusion de la pensée. Lorsque l'homme réalisera que ce n'est pas lui qui pense, il commencera à comprendre le phénomène de l'illusion de la pensée. Et automatiquement, il entrera dans la communication supramentale avec l'intelligence.
Il y a une personne qui dit, l'Église a déjà dit que Adam et Ève n'avaient jamais existé. D'après vous, ce serait faux?
L'Église a dit que Adam et Ève n'ont jamais existé?
Est-ce que la personne pense que l'Église dit?
Il faudrait que la personne soit sûre de ce que l'Église a dit. Mais ensuite, reposer la question.
La guerre de l'Antéchrist, est-ce que ça signifie destruction de l'Agartha?
Non. La période de l'Antéchrist signifie le mouvement suprême des forces de l'Agartha sur la Terre. C'est la culmination du pouvoir des forces négatives sur la planète. C'est la domination occulte des forces de la magie noire sur la planète. C'est le lien parfait entre l'astral et l'homme. Tout ce qui est lié à l'activité de l'Antéchrist est lié à cette période de l'involution qui fera réaliser à l'homme qu'il entre dans un cycle nouveau. C'est une période extrêmement importante pour l'homme sur le plan émotionnel et sur le plan mental. Lorsque l'homme découvrira ce que veut dire l'Antéchrist, il réalisera jusqu'à quel point les puissances de Lagartha sur la Terre sont puissantes, et il réalisera jusqu'à quel point il était dans l'ignorance des formes. Et c'est là qu'il commencera à comprendre et à réaliser certaines choses, et qu'il se produira des événements dans le monde qui lui permettront de développer un nouvel espoir pour l'évolution de l'humanité.
Quand commencera le deuxième cycle d'OVNI?
Il commencera en 1987.
Lagartha, Shambhala, les extraterrestres, les intraterrestres, c'est bien beau, mais que savez-vous des diamants verts sur le mont Saint-Hilaire?
Je suis bouche bée.
C'est la réponse de Bernard. S'en prenez une fois, une question. Mettez bouche bée, Bernard. Quelle différence y a-t-il entre les extraterrestres et les anges?
Question très intéressante. Les extraterrestres, le concept extraterrestre, c'est un concept qui convient à la nature de l'homme. Si l'homme pouvait concevoir que l'homme tel qu'il est n'est pas un homme, mais que l'homme en devenir a le pouvoir de manipuler l'énergie de la lumière et de créer des formes selon son besoin. Alors, la différence entre ce que vous appelez les extraterrestres et les anges est simplement une différence de vibration. Il y a des êtres, autrement dit, qui sont extrêmement évolués dans l'univers. Et ces êtres-là, de par leur évolution, ont le pouvoir, instantanément, de communiquer à volonté tout partout dans le cosmos. Ces êtres-là sont des anges. Les extraterrestres sont des êtres qui n'ont pas ce pouvoir, qui sont tout de même limités par un facteur de temps et d'énergie, et qui représentent des aspects ratios de l'humanité, mais plus évolués. Et dans le cadre de cette explication, l'homme qui possède une âme doit un jour être en fusion avec l'énergie de ces êtres que vous appelez, vous, des anges. Ces êtres sont des ajusteurs de pensée, et lorsque l'ajusteur de pensée est en fusion avec l'âme du mortel, cet homme devient immortel. Et nous les appelons des ajusteurs de pensée parce que justement, ils ajustent la pensée de l'homme, et c'est pourquoi lorsque l'homme réalise que ce n'est pas lui qui pense, mais que ça pense en lui, il commence à entrer dans l'intelligence universelle. Et les extraterrestres sont sous la même loi.
Ça pense en lui, c'est la formule qu'a utilisée Alex Lachance, alchimiste, il y a 2-3 semaines ici.
Pardon?
La formule que vous avez dit, là, ça pense en lui, oui. Ça pense en soi, oui. C'est ce que lui nous disait.
C'est juste. Il a entièrement raison.
Que pensez-vous de quelqu'un qui vous prend pour un imposteur?
Je suis totalement d'accord avec lui.
On dit que nous sommes tous des dieux et que l'on ne doit pas l'adorer. Quelle est votre idée à ce sujet?
L'homme est un être qui a le pouvoir en lui de la lumière parce qu'il a une âme. Et lorsque l'âme est en union avec cette lumière, l'homme devient créateur. Et c'est ce qu'on veut dire quand on dit que l'homme est un dieu. L'homme a le pouvoir de créer. Lorsqu'il est dans des conditions d'énergie qui lui permettent cette créativité. Mais il faut se méfier des concepts idéalistes, philosophiques ou spirituels que l'on se donne pour se valoriser soi-même. Parce que lorsque l'homme est rendu au stade d'être créatif, il n'est plus intéressé à être un dieu, il est simplement ce qu'il fait. Ça fait partie de la vanité égocentrique de l'homme de vouloir se croire un Dieu. Mais ça lui permet, entre-temps, avant de le devenir, de se supporter, de se donner du courage spirituel pour avancer vers le point culminant de son évolution, qui est le passage d'un plan matériel à un autre. C'est une sorte de pilule.
Pourquoi Bernard s'exprime-t-il dans un langage très difficile à comprendre d'un gars de campagne? Il y a des cassettes, il peut les réécouter.
Si je dois m'adresser à un public et je dois me servir du langage d'une façon suffisamment appropriée pour que la majorité des gens me comprennent. Mais si je parlais à un homme de campagne, comme vous dites, ou de statut plus simple, si vous voulez, dans la vie, je pourrais parler comme il parle. Autrement dit, je peux comme parler avec n'importe qui selon son tempérament, son éducation, mais dans un public, je dois quand même respecter l'allure psychologique et mentale d'un public. Je ne peux pas parler et communiquer sans respecter ceci. Le langage, c'est un outil extrêmement important, et déjà les idées sont suffisamment difficiles à exposer sans les exploiter par un langage qui est décousu. Parler normalement, je trouve ça normal. Mais si j'étais avec la personne qui me demande cette question et qu'on prenait un verre de bière dans une brasserie, mais je parlerais à la Molson.
Pour le commercial. Puisque tout a sa raison d'être dans l'évolution, pourquoi faut-il qu'il y ait de la souffrance avant de pouvoir retourner à la lumière?
Parce que la souffrance provient du fait que l'homme vit sa vie existentielle de par ses émotions et de par son intellect. Et la lumière ne peut pas pénétrer dans l'homme sans que le choc vibratoire qu'elle crée dans son passage dans les centres de l'homme. La lumière, c'est la lumière. Elle est puissante. Et lorsqu'elle passe par l'homme, qu'elle entre dans son intelligence ou qu'elle entre dans son émotionnel, elle crée des chocs, et ces chocs sont la souffrance. Ce n'est pas que la lumière veut que l'esprit dans l'homme veut qu'il souffre, mais l'homme est tellement dense, ses éthers sont tellement denses, que la lumière ne peut pas passer en lui sans qu'il y ait de choc. Et ces chocs, naturellement, augmentent le taux vibratoire de ses éthers, et c'est ce qui permet éventuellement à l'homme de passer d'un niveau de vibration à un autre. La souffrance fait partie de l'involution. Elle est terrible, mais elle fait partie des lois de la perfection de la matière. Et lorsque l'homme sera au-dessus des lois de la matière, il ne souffrira plus. Mais la souffrance crée dans l'homme conscient un changement de vibration dans son corps, dans ses corps. Mais lorsqu'elle est vécue inconsciemment, cette souffrance, elle sert simplement de matériel pour l'évolution de l'âme. Ce que l'homme ne comprend pas, c'est que, et ça encore, c'est à cause de son éducation traditionnelle, c'est que l'homme a une âme. Et l'âme se sert toujours de l'expérience de l'homme sur le plan matériel pour évoluer. Et ce n'est que lorsque l'homme, au niveau de son ego, devenu esprit, qu'il renverse cette polarité. Et que, au lieu que l'ego de l'homme, que l'homme soit au service de l'âme, c'est-à-dire qu'il souffre, c'est l'âme qui devient au service de l'homme, et l'homme ne souffre plus. L'homme, un jour, lorsqu'il sera dans la lumière, lorsqu'il sera dans l'éther, ne souffrira plus parce que l'âme sera à son service, et il se servira de l'énergie de l'âme pour créer. Mais tant que l'homme est au service de l'âme, il souffrira. Parce que l'âme se servira des événements de la vie sur le plan émotionnel et sur le plan mental pour évoluer. Mais lorsqu'elle est suffisamment évoluée, l'âme, et qu'il y a fusion avec l'ajusteur de pensée, à ce moment-là, il est donné à l'homme, au niveau de son ego rendu esprit, le pouvoir de se servir de l'énergie de l'âme, et c'est ce qui permet à l'homme de ne plus souffrir et de vivre une vie paradisiaque dans un monde parallèle.
Si Bernard doit se reposer en 1984, c'est qu'il se fatigue, est-ce qu'actuellement il souffre?
La fatigue est une souffrance, parce que la fatigue, c'est une condition matérielle qui fait que la relation entre le mental et la matière est toujours sous tension. La fatigue, c'est une illusion matérielle, ce n'est pas réel, la fatigue. Mais la matière est tellement dense que le mental supérieur est obligé de toujours soulever le poids du corps matériel, et c'est ce qui crée la fatigue. Tant que l'homme vit dans un éther ou dans un monde qui est désharmonieux, il y a de la fatigue. Si un homme parle, si je parle avec quelqu'un qui a une bonne vibration, je ne me fatigue pas. Si je parle avec quelqu'un qui a une vibration plus basse, qui a un ego orgueilleux et tout ce que l'on peut découvrir dans la nature humaine, il y a une perte d'énergie. Mais c'est la volonté qui permet de continuer le travail. Mais lorsque le travail est fini, à ce moment-là, l'homme se retire. Mais la volonté est toujours là pour supporter vibratoirement les corps qui servent à l'exécution du plan de travail.
Pouvez-vous nommer des personnalités de hiérarchie de Shambhala et d'Agartha? Nommer des personnalités.
Ça ne servirait à rien.
Qui sont les Melchisedec?
Les Melchisedec font partie du corps pensant. Les Melchisedec font partie de cette hiérarchie qui serait convenue sur le plan matériel comme étant les ingénieurs scientistes de la lumière. Les Melchisedec sont des êtres qui possèdent une science très avancée de l'évolution et qui travaillent avec Shambhala et qui protègent Shambhala dans le système solaire. Parce que tous les centres d'intelligence dans le cosmos doivent être protégés, parce qu'il y a constamment dans le cosmos des conflits d'énergie.
Vous avez parlé de la cessation du cycle d'évolution. J'aimerais savoir si elle concorde avec la fin de la mise en quarantaine causée par la rébellion de Lucifer.
Oui. La mise en quarantaine durera pendant un certain nombre de siècles. Pendant un certain nombre de siècles, les forces lucifériennes, par le biais de l'Agartha et ainsi de suite, ne pourront plus infecter l'homme, parce que l'homme sera déjà dans la science. Mais avec l'évolution, avec le temps, les hommes perdront leur capacité de maintenir à un certain niveau leur vibration, et éventuellement même les fils de la lumière au début du cycle verront parmi leur rang des individus passer dans l'autre camp, et c'est à ce moment-là que l'homme, à cause justement des pouvoirs des fils de la lumière et aussi de la science qui sera extrêmement avancée dans ces temps-là, c'est à ce moment-là que la Terre connaîtra la plus grande période de magie noire, de conflit, de combat entre la magie noire et la magie blanche. Il y a, dans toutes les civilisations qui sont très avancées ont ce que l'on appelle le droit d'aîné. Ceci veut dire qu'une civilisation qui a le droit d'aîné ne peut jamais descendre, ne peut jamais évoluer. Elle évolue à l'infinité. Mais l'humanité, l'homme, n'a pas encore le droit d'aîné. Et l'humanité aura le droit d'aîné après la septième race de l'homme, et après cette phase de l'évolution, il n'y aura plus de perte d'énergie dans la conscience universelle sur la Terre, et l'homme continuera à évoluer. Il n'y aura plus de cycle, parce qu'il n'y aura plus de karma sur la Terre.
Est-ce vrai que l'énergie solaire entre dans l'homme par son principal centre nerveux, le plexus solaire, permettant ainsi à l'homme évolué de matérialiser ses formes pensées, lui permettant de capter les vibrations aussi bien de Shambhala que d'Agartha?
Oui, les énergies solaires peuvent se manifester dans tous les centres de l'homme. Cependant, les énergies solaires qui... Il faut comprendre qu'est-ce que c'est le soleil. Le soleil, c'est au-delà de sa forme matérielle, c'est un esprit. Autrement dit, le soleil, c'est un centre d'énergie qui correspond à la manipulation dans notre système des grandes forces d'évolution et d'involution. Et le soleil contient tout. Le soleil contient le pouvoir de construction et le pouvoir de destruction. Et lorsque l'homme, au niveau de ses centres d'énergie, comme dans le cas du plexus solaire, lorsqu'il reçoit l'énergie solaire, il se spiritualise. Et cette spiritualité, elle est bonne parce qu'elle lui sert. Mais à un certain moment, cette spiritualité devient négative à son évolution parce que l'homme ne peut pas entrer dans l'évolution par le biais du plexus solaire. Il ne peut plus entrer dans l'évolution par le biais du corps astral. Il doit entrer dans l'évolution par le biais du mental supérieur, et ce mental supérieur doit être construit de toutes pièces. Et pour que le mental supérieur de l'homme soit construit de toutes pièces, afin que l'énergie solaire lui serve dans ce centre, il faut que l'énergie qui était au niveau du plexus solaire au début, au niveau du centre de l'émotion, comme l'énergie qui est dans le mental inférieur de l'homme, soit transmutée pour créer un principe supérieur. Et à ce moment-là, l'énergie solaire exacte de l'individu un certain travail, c'est-à-dire que la force pénétrante de cette énergie substitue en lui tous les liens qu'il a avec l'ancienne race de l'humanité pour le forcer à entrer totalement libre en contact avec les intelligences de Shambhala. Il faut qu'il y ait une mutation. Et pour qu'il y ait mutation, il faut qu'il y ait une souffrance. Et pour qu'il y ait une souffrance, il faut qu'il y ait une raison derrière la souffrance. Et cette raison fait partie du plan de vie de chaque individu. Et lorsque le corps émotionnel et mental sont suffisamment transmutés, il y a une autre couche de conscience dans l'homme qui permet d'être en communication télépathique avec les intelligences de la lumière et de comprendre automatiquement son plan de vie et le préparer éventuellement à entrer dans la dimension du monde parallèle.
Lorsque l'homme possédera la conscience christique ou cosmique, aura-t-il encore un corps terrestre? Est-ce que cette mutation est déjà commencée puisque nous sommes à la fin d'un cycle proprement dit?
Oui, lorsque l'homme entrera dans l'éthérique, il n'aura plus besoin de corps matériel, mais il pourra se servir de son corps matériel à volonté. Un corps matériel est un corps qui se construit, qui se détruit. Et si l'homme a besoin d'une forme pour faire un travail quelconque, il se servira de cette forme. Et s'il veut se libérer de cette forme, il fera de même.
Si Shambhala est plus puissant que Agartha, pourquoi sommes-nous prisonniers des pouvoirs d'Agartha, donc du temps?
Parce que j'ai déjà expliqué que nous, sur la Terre, nous sommes victimes de la loi des cycles. Et l'Agartha, de par son intelligence et ses pouvoirs, construit l'homme selon les lois de l'involution. Et Shambhala élève l'homme selon les lois de l'évolution. Et lorsque le cycle de travail de l'Agartha est terminé, c'est le cycle de Shambhala qui commence. Ce sont des lois cosmiques. Et lorsque l'homme comprend ces lois, il n'est plus susceptible d'être affecté par ce que Shambhala fait parce qu'il entre lui-même dans l'évolution. Il se met automatiquement sous une autre loi, qui est la loi de la lumière. Ce n'est pas une affaire de puissance, de plus fort ou plus faible, c'est une affaire de cycle. Mais lorsque la lumière entre dans un cycle, elle termine le cycle qui venait avant lui.
Quand tu es étudiant, est-ce qu'il faut laisser tes études?
Non.
Ne plus penser?
Non. Vous devez considérer, chaque homme, chaque femme doit considérer qu'il a ou qu'elle a un plan de vie. Et ce plan de vie doit être exécuté. Et si c'est dans le plan de vie d'un individu d'aller à l'université, de prendre des cours, de se servir de sa mémoire, ça fait partie de son plan de vie. Et lorsque ce sera sa mémoire, il la perdra, mais ce ne sera pas de par ses efforts personnels. Il n'y a pas d'effort personnel. Les gens doivent faire ce qu'ils font comme ils l'ont toujours fait. Et lorsque le temps vient où il y a en eux changement vibratoire, il se produit ce changement vibratoire et les gens agissent selon le plan de vie qui se présente à eux. Alors, l'individu doit continuer à étudier. On doit continuer à vivre. L'homme doit continuer à vivre comme il vivait avant, mais il apprend de plus en plus des choses et automatiquement sa façon de voir les choses change. Et au fur et à mesure que sa façon de voir les choses change, le temps passe, ses vibrations changent. Il a des expériences qui créent en lui des chocs vibratoires et petit à petit, l'homme devient de plus en plus conscient, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas à l'homme de faire le travail.
Agartha ou Shambhala représentent des intelligences opposées, mais complémentaires. En est-il de même des relations entre les personnes humaines qui sont les influences qui les relient ou les opposent?
Je dois dire que oui.
Actuellement, notre duo, c'est peut-être le jeu d'Agartha et Shambhala. Pour garder l'équilibre. Est-ce que le fait de travailler à l'évolution de notre véhicule physique dans le monde matériel, le corps, l'alimentation, les exercices, etc., nous prépare à la transformation, nous aide de quelque façon à grandir notre âme?
Oui, si vous aidez au niveau de vos efforts personnels à bien cultiver votre corps matériel, votre corps émotionnel, votre corps mental, vous vous prédisposez à une meilleure vibration. Ça, c'est au niveau de votre expérience personnelle. C'est au niveau de votre expérience spirituelle. Mais le point que je fais, c'est lorsque l'homme entre en contact avec la lumière qui fusionne avec lui, c'est la lumière qui prend soin de tous ses corps et à ce moment-là, il n'a plus qu'à vivre. Il n'a plus d'efforts à faire parce que tout est dans l'ordre. Mais avant ce temps, l'homme fait des efforts pour se perfectionner spirituellement, mentalement, émotivement ou physiquement. Mais il ne faut pas qu'il tombe dans l'illusion de la forme. Ce n'est pas par lui-même que l'homme entre dans la lumière.
Pourquoi venez-vous nous parler ce soir? Si vous possédez la conscience, vous ne devriez pas vous intéresser à nous.
Je parle depuis longtemps parce que j'ai quelque chose à dire. Si je n'avais pas quelque chose à dire, je ne parlerais pas. Mais comme j'ai quelque chose à dire, je dois le canaliser. Si vous avez un mal de ventre, il faut aller à la toilette. Vous ne pouvez pas conserver ce mal de ventre, il faut que l'énergie se canalise. Alors, c'est la même chose.
Anatomiquement,
je n'insulte pas la personnalité de l'audience, j'explique simplement le principe de canalisation de l'énergie.
Anatomiquement, où sont situés les 7 chakras? Anatomiquement, où sont situés les 7 chakras?
Il y a des centaines de livres écrits sur ce sujet. Ils se valent tous l'un et l'autre. Lisez-les.
Il y a des gens qui viennent avec des dactylos, hein? Parce qu'il y a des questions écrites au dactylo.
Justement, j'ai besoin d'une typiste.
Y a-t-il des êtres extraterrestres qui ont été capturés au désert du Nevada aux États-Unis en 1947, dont on a un exemplaire à Terre des Hommes? Cela signifie quoi? Des bonhommes avec des grosses têtes, comme l'on voit dans les films Close Encounter of the Third Kind? Alors, c'est vrai cette histoire?
Écoutez, je ne peux pas me rendre victime de la curiosité du public. Il y a trop d'événements dans le monde qui se produisent et il y a énormément de faits qui sont cousus, il y en a d'autres qui sont décousus, et moi je risque de me piquer avec l'épingle si j'essaie de rapiécer les pièces. Et je n'aime jamais parler, confirmer ou déconfirmer. D'ailleurs, je ne confirme rien et je ne déconfirme rien, ça fait partie de ma psychologie. Et je dois vous dire, pour répondre à votre question, si c'est une question ou une curiosité intellectuelle qui est intéressante, il s'agit à vous de faire l'investigation, de rencontrer les gens en autorité, de faire l'étude, ça fait partie de votre expérience. Je ne peux pas, parce que, à cause de ma facilité, répondre et confirmer ce qui se passe dans le monde. Je perdrai énormément d'énergie. Ça fait partie de votre expérience. Cherchez, éventuellement, il faudra que vous ayez par vous-même votre propre conviction. Sans cela, vous vous soumettez à ma parole, vous vous soumettez à un jugement de ma part, et ça, ce n'est pas bon pour vous. Vous devez, de par vous-même, peser le pour ou le contre d'une situation, surtout dans le domaine des ovnis ou dans le domaine des extraterrestres. Les mystères de l'humanité deviendront de plus en plus apparents à l'homme de science comme au profane, et ça fait partie de l'expérience de l'homme, et ça fait partie de l'ouverture de l'esprit de l'homme sur l'impossible. Alors, si je ne réponds pas, c'est pour ces raisons-là. Y répondre ne vous aidera jamais, parce que y répondre vous forcerait simplement à vous enraciner dans une forme qui vous sécuriserait sur le plan intellectuel ou sur le plan émotionnel. Si vous voulez savoir quelque chose, mettez-vous en contact avec les agences gouvernementales, faites une recherche, il y a des organismes qui s'occupent de ça, et éventuellement, vous verrez jusqu'à quel point des choses sont cachées ou d'autres choses sont à la disposition du public, et ça vous permettra en attendant de canaliser vos énergies.
Alors, précisément pour l'affaire des ovnis du Nevada, il y a un livre qui s'est écrit qui s'appelle « Le cas Roswell ».
Ça, c'est un cas en point, on a Richard Glenn. Je ne dis pas que Richard Glenn c'est une autorité mondiale dans le domaine des ovnis, mais je sais que Richard Glenn a suffisamment d'intérêt sérieux envers ce domaine, qu'il a contact avec des gens qu'il connaît, qui ont eu des expériences, ainsi de suite, et c'est une personne qui peut être beaucoup plus apte à répondre à vos questions dans ce domaine-là que moi-même. Mais, d'un autre côté, il faut réaliser aussi qu'il a ses activités et qu'il ne peut pas non plus perdre beaucoup d'énergie dans ce plan-là. Il faut que les gens fassent leurs études, qu'ils recherchent, parce qu'en recherchant quelque chose, vous pouvez découvrir quelque chose qui peut être intéressant pour plusieurs personnes.
Vous ne me croirez pas, mais la question est là. Qu'avez-vous mangé pour déjeuner? On va le faire à la publicité, c'était sur un papier qui est marqué « Purina ». Vous voulez peut-être qu'on parle de ça? Qu'avez-vous mangé pour déjeuner?
J'ai pas mangé beaucoup, je peux vous dire ceci. J'ai pas mangé beaucoup. J'ai mangé du griot.
Purina. Est-ce que l'être supersensoriel existe?
L'être quoi?
Attendez, est-ce que le...
Supersensoriel.
Oui, c'est ça. Est-ce que l'être supersensoriel existe? Est-ce que le a quelque chose en relation avec ce qu'enseigne la Bible et est rapporté par les témoins de Jéhovah?
Mais qu'est-ce que c'est le mot là?
Est-ce que le corps... La personne qui écrit la question, peut-être?
Oui, l'être extrasensoriel existe. Il y a des êtres qui ont des facultés extrasensorielles parce qu'ils ont des corps subtils développés qui leur permettent de percevoir des ongles, effectivement, l'être extrasensoriel existe. C'était quoi le reste? Est-ce que le cosmique a quelque relation avec ce qu'enseigne la Bible? Effectivement, il y a une relation entre le cosmique et la Bible, mais la Bible, vous remarquez que la Bible a été écrite pour des gens, pour des hommes qui étaient extrêmement primitifs, et tout était caché derrière des paraboles, tout était caché derrière un langage extrêmement convoluté, et c'est avec le temps qui vient, dans les temps qui viendront, que l'homme connaîtra précisément les faits historiques qui se cachent derrière le langage voilé de la Bible et rapporté par les témoins de Jéhovah. Je ne crois pas que les témoins de Jéhovah soient si intéressés dans le cosmique. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ils sont intéressés dans la Bible. Mais le cosmique, les ovnis, ça fait pas partie. C'est difficile à comprendre. Pourtant, je suis très simple. Je m'explique dans des termes très simples. La raison pour laquelle je suis difficile à comprendre, c'est parce que vous essayez de me comprendre. Lorsque vous cesserez d'essayer de comprendre, vous me comprendrez. C'est ça que je dis depuis tellement longtemps. C'est parce que vous essayez de comprendre que vous avez de la difficulté à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Tout est dans l'homme. Tout est énergie et passe par le mental de l'homme. Il n'y a rien à comprendre. Et lorsqu'on a compris, qu'on a détruit l'attitude d'essayer de comprendre, c'est là qu'on commence à comprendre. Je ne suis pas difficile à comprendre. Je me comprends.
En rapport avec la cassette numéro 4 qui s'intitulait « Religion, politique ou sexe », aimez-vous mieux la religion, la politique ou le sexe?
Je les aime tous les trois. Parce que chacun sert à sa façon à l'évolution de l'homme. Le sexe, il n'y a pas de problème avec ça. On le voit différemment, d'accord, mais ça fait partie de la liaison terminale entre l'énergie supérieure de l'homme et l'énergie inférieure de l'homme. Si le sexe n'existait pas, il n'y aurait pas d'humanité. Alors le sexe, ça fait partie des lois de la création. C'est l'homme qui a perverti la sexualité. Et sur le plan de la politique, ça fait partie de la grande organisation des peuples et des nations, ça fait partie des activités occultes des gouvernements mondiaux, et il y a dans la politique énormément de sciences cachées, comme il y a dans la politique énormément de problèmes à vue d'œil. Et lorsque l'homme comprend ou connaît ou la politique d'un point de vue mondial, d'un point de vue cosmique, la politique c'est un phénomène sur la planète qui est extrêmement intéressant parce que il y va de la destinée des nations et la politique va beaucoup plus loin que l'on peut le reconnaître à première vue. La politique, c'est une des grandes sciences cosmiques, mais qui n'est pas vécue sur la Terre en tant que telle. Elle est vécue sur la Terre en tant que prédisposition intellectuelle ou philosophique ou idéologique. Mais sur le plan cosmique, la politique, c'est une science extrêmement vaste et extrêmement intégrale. Et l'autre était quoi?
La religion.
La religion fait partie des grands systèmes qui ont été mis à la disposition de l'homme par les initiés pour l'évolution de l'homme, pour la progression de son esprit. Et la religion a fait énormément de choses pour l'humanité, mais comme la religion fait partie du cycle de l'évolution, à un certain moment, elle ne peut plus remplir l'homme de ce qu'il doit savoir, parce que la religion fait partie des systèmes extérieurs à l'homme. Et c'est d'ailleurs la différence entre l'homme de demain et l'homme d'aujourd'hui, c'est que l'homme de demain ne sera pas amené à l'évolution par l'extérieur, ni sexuelle, ni politique, ni religieuse, mais il sera amené à l'évolution par l'intérieur, à tous les niveaux, par la lumière.
Vous avez déjà dit qu'il y a des personnes négatives qui sont exploitées par des êtres dans l'astral qui se servent d'elles pour leur évolution. Que peuvent faire donc ces personnes pour s'en sortir et se sentir mieux?
Le grand combat entre l'homme et l'astral se résume à deux choses. La première chose, c'est la volonté. La deuxième chose, c'est de ne pas se laisser embobiner. C'est pourquoi je dis toujours qu'il ne faut pas croire. Lorsque l'on comprend l'importance de ne pas croire, je ne dis pas nier, je dis de ne pas croire, qui est un état mental. À ce moment-là, on se libère de l'astral. Mais l'astral est très puissant chez l'homme, surtout chez les gens sensibles, chez les gens de grande sensibilité. Et souvent, il y a des communications entre l'astral et l'homme. Et l'homme doit se servir de sa volonté et du fait qu'il a la capacité de ne pas croire ce qui se dit en lui, ce qui lui vient en lui, pour ne pas être exploité par ses forces. Mais la volonté, c'est le premier outil. Et l'homme a très peu de volonté parce que l'homme a un corps de désir extrêmement sensible, extrêmement réactif, et l'homme a tellement le désir, veut tellement, que c'est là qu'il se met les pieds dans les plats. La volonté, c'est essentiel dans la vie. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. L'homme découvrira qu'il y a deux principes sur trois qui seront vécus sur la Terre cosmiquement. L'intelligence et la volonté. Le principe de l'amour cosmique ne sera jamais vécu et connu sur le plan matériel. Si l'homme vivait le principe cosmique, l'énergie du principe dans son corps matériel, il souffrirait énormément parce que ce principe est affecté à l'éther. Mais l'homme peut, sur le plan matériel, vivre du principe cosmique de l'intelligence et de la volonté. Et lorsqu'il vit de ces principes, il détruit tout ce qui est astral en lui et il se prépare à l'éthérique. Ou il peut ensuite se servir de l'énergie de l'amour pour créer des formes harmonieuses et qui servent la civilisation de l'homme.
Mais vous nous avez déjà dit que les trois manifestations des élèves principaux, c'était l'intelligence, la volonté et l'amour.
Oui.
Que d'autres appellent Dieu, c'est ça.
C'est juste.
Dieu en trois personnes, c'est ça.
Oui.
Que pensez-vous du livre « Le lien universel » ?
« Le lien universel », c'est un livre qui crée dans l'humanité aujourd'hui des pensées nouvelles, qui soulèvent dans l'homme des sentiments spirituels nouveaux et qui aident à l'évolution de l'humanité.
Que pensez-vous de cette phrase « Notre corps physique est le produit de ce qu'on mérite » ?
Notre corps physique convient avec ce que l'on est. Il n'est pas le produit de ce que l'on est parce que ce que l'on est n'est pas ce que l'on est. Ce que l'on est n'est pas réalisable, n'est pas réalisé. Mais le corps physique convient avec ce que l'on est parce que ce que l'on est au niveau émotif, mental ou vital est approximé dans la nature matérielle de la même façon. Si on est émotif, extrêmement sensible émotivement, il y aura une désorganisation dans l'énergie du corps vital qui affectera éventuellement le corps physique. Alors, le corps physique convient avec ce que l'on est. Mais le corps physique n'est pas ce que l'on est, parce que ce que l'on est totalement en changement, et ce n'est que lorsque ce que l'on est stabilisé parfaitement que l'on peut dire que le corps physique est ce que l'on est. Et à ce moment-là, l'homme a le pouvoir sur son corps matériel et peut maintenir son corps matériel en équilibre sans passer par les méthodes mécaniques de la science.
On parle beaucoup des années, de l'année 1984, des écrivains, des mystiques qui sont référés. Vous-même, Bernard, vous dites qu'en 84, vous cesserez de parler en public. Que sera donc cette année 1984? Qu'aura-t-elle de si particulier?
Je m'en vais en Floride.
Et pour les autres?
Pour les autres, ça fait partie de leur expérience. 84, c'est une année importante à plusieurs niveaux. Mais il ne faut pas faire du chichi avec 84, parce que si ça continue et qu'on commence à parler de 84, on va s'apercevoir en 84 que les gens vont se promener dans les rues avec les yeux bandés ou des chapeaux feutrés sur la tête. Il faut que les gens continuent à vivre. 84, c'est 84, il y a une signification, il y a une résonance dans cette année pour des individus, en tout cas pour moi, mais on ne doit pas s'occuper des dates. Lorsqu'on s'occupe des dates, on s'enferme et on crée en soi-même une sorte d'anxiété. Occupez-vous pas des dates. Mangez-les.
Qu'est-ce que l'esprit?
L'esprit?
Oui.
L'esprit, c'est un terme convenant dont se sert l'homme pour expliquer le pouvoir de l'énergie sur la forme. Lorsque l'énergie prend une forme qui n'est pas matérielle, on dit que c'est de l'esprit. Dans le fond, de l'esprit, c'est un niveau quelconque d'intelligence. Plus on monte dans la vibration, plus l'esprit est grand. Alors, l'esprit, c'est la forme que prend l'énergie sur un plan ou sur un autre. C'est un terme.
Comment pouvons-nous être tous des réincarnés, puisqu'il n'y avait qu'un million de population au temps du Christ et que nous sommes rendus 4 milliards? C'est la question que beaucoup de gens se posent quand on parle de la réincarnation. Il y a une réponse?
Le problème de Malthus. S'il y avait sur la Terre 4 milliards, 5 milliards d'habitants, il y aurait dans les visibles 10 milliards et 10 milliards et 10 milliards d'habitants. Il y a dans l'invisible plus d'êtres qu'il n'y en aura jamais sur les planètes habitées. Alors, il y a toujours du monde pour fournir sur ce côté de l'espace. Alors, même si au temps du Christ, il y a X nombre de gens, de l'autre côté, il y en a énormément qui attendent, qui font partie d'un cycle lié à la planète Terre, et il y en a qui viennent d'autres systèmes solaires. Et inquiétez-vous pas, il ne manquera jamais d'hommes sur la Terre. Et il ne manquera jamais d'esprit pour entrer dans les enveloppes charnelles.
Les habitants du Québec, les Québécois, sont-ils le peuple élu par Shambhala, puisque certains ont dit qu'un tiers de la planète de l'humanité sera détruit et non le Québec?
Je ne réponds pas à cette question parce que cette question est justement le genre de question qui font que les gens se prennent pour le nombril du monde. Et lorsque on se prend pour le nombril du monde, on perd vision de soi-même. J'ai déjà dit que Québec a une importance dans le plan de l'évolution, et ceux qui sont plus avancés dans leur intelligence interne peuvent savoir, comprendre, saisir des choses concernant le Québec. Mais il ne s'agit pas de faire du Québec une terre promise.
Quand Jésus parle de son Père qui est dans les cieux, de qui veut-il parler?
Le Père qui est dans les cieux, c'est la lumière qui est dans sa volonté. La volonté du Nazaréen, c'est le Père. Et si vous n'êtes pas suffisamment dans votre intelligence pour savoir que ce que vous voyez n'est pas ce qui est, vous serez automatiquement bouffé.
Un type d'Agartha dira qu'il vient de Shambhala.
C'est parce que l'homme est dans la matière, mais lorsque l'homme sortira dans la matière, il comprendra les pièges de l'esprit. C'est inouï. Moi, je connais des gens qui sont très avancés dans l'ésotérisme, dans l'occulte, qui sont très avancés dans le mouvement intérieur de leur esprit, et qui ont pendant très longtemps, même conçu que ce qu'il sentait, ce qu'il croyait, ce qu'il voyait, ce qu'il percevait était l'ultime de la réalité dont il prenait possession dans leur déplacement sur ces plans de l'esprit. Et un jour, lorsque nous avions de petites conversations amicales, je leur faisais même réaliser que ces grandes dimensionnalités de ce qui apparaît comme étant le réel absolu étaient des fausses représentations du monde astral. Ça va très loin. Très loin. Mais ça fait partie de l'expérience de chacun. Et on me demande pourquoi je parle en public. C'est justement pour ceci que je parle en public.
La sensibilité est-elle un aliment pour l'ego Et par le fait, un obstacle à la conscience.
Très intelligent. La sensibilité est un aliment par l'ego, elle sert à l'évolution de l'homme, elle fait partie de la vibration de l'âme dans l'homme, elle est très belle, elle est très grande, elle est très bonne, mais elle est dangereuse si à un certain point, elle n'est pas conscientisée. Parce que si elle n'est pas conscientisée, la sensibilité, il se produira dans l'homme une défaillance de la volonté et une défaillance de l'intelligence et une augmentation suffisamment sensible de l'illusion du principe de l'amour. Et c'est par l'amour, c'est par l'illusion du principe de l'amour que les hommes découvriront la faiblesse de leur volonté et de leur intelligence. L'amour, dans sa forme dégradée, devient du sentiment. L'amour, dans sa forme parfaite, est une énergie qui crée. Mais l'homme ne peut pas vivre l'amour dans sa façon parfaite, alors il la vit d'une façon dégradée, et dans le sentiment, il y a beaucoup d'amour spirituel, et cet amour spirituel qui est dégradé diminue la volonté et l'intelligence et rend l'homme susceptible d'être infecté par l'astral.
Bernard dit que la sensibilité de l'homme l'empêche d'évoluer. Que dire du fait que l'homme doit être sensible pour sentir les vibrations qui le feront évoluer? Faites, s'il vous plaît, le point sur la sensibilité de l'homme.
Je viens d'expliquer les deux aspects de la sensibilité. La sensibilité fait partie de la vibration de l'âme dans l'homme, mais l'homme n'étant pas conscient. L'homme n'étant pas conscient de l'âme, l'homme n'étant pas conscient à cause du fait que son ego, son intellect et son sentiment fait interférence avec cette énergie, la manipule à sa façon pour son propre bénéfice personnel, se met en danger de sensibilité. Par contre, il y a des gens qui sont suffisamment dans la volonté et qui sont suffisamment dans l'intelligence pour se servir de leur sensibilité, pour percevoir d'une façon de plus en plus précise les contours éthériels du réel. La sensibilité, c'est un couteau à deux tranchants. C'est comme n'importe quoi. Tout est un couteau à deux tranchants dans la vie. L'amour, c'est un couteau à deux tranchants. L'inquiétude, c'est un couteau à deux tranchants. La charité, c'est un couteau à deux tranchants. Tout est un couteau à deux tranchants. Un tranchant aide l'homme, un autre tranchant le détruit, et c'est à l'homme de savoir, de connaître, de comprendre l'équilibre entre les deux tranchants pour qu'il ne soit jamais affecté par la lame du couteau, mais simplement se reposer dans l'esprit de la matière du couteau. Et l'esprit de la matière du couteau, c'est l'esprit de l'intelligence et de la volonté qui fait comprendre à l'homme les normes, les limites abusives ou naturelles de la sensibilité comme de l'amour. Ce que l'homme a le plus de besoin dans la vie, c'est de la psychologie. De la psychologie réelle, c'est-à-dire de la volonté et de l'intelligence en pulsation constante en lui et qui travaille en lui pour l'élever au-delà de la dualité dont il est, dans certains cas, victime. Il n'y a plus de joie. Et un jour, vous comprendrez ce que je veux dire. Et l'orgueilleux viendra et dira, « Ben oui, c'est facile d'embobiner des gens saints. » Je dirai à l'orgueilleux, « Viens chez moi et je te débobinerai. »
La création a-t-elle un but?
La création, c'est un processus d'évolution cosmique. Et demander si elle a un but, c'est demander s'il y a une raison pour la création. Demander quelque chose, c'est chercher à comprendre. Lorsque l'homme sera dans la vision des choses, dans la vision du processus, dans la compréhension des lois, dans la vision parfaite de toute cette évolution des choses, il verra que la création a de l'intelligence, a de la volonté, a de l'amour. Qu'il y a de ces trois principes dans la création, et qu'il y a aussi d'autres principes qui ne sont pas encore manifestés. La création, ça fait partie de la vie, ça fait partie du mouvement de la vie, ça fait partie de l'intelligence de la vie, de la volonté de la vie, de l'amour de la vie. Mais l'ésotérisme au féminin, ça me fait rire. Tu comprends, toi?
Oui, dans ce sens-là.
Mais vas-y, explique au public.
Bernard, qu'est-ce que...
Il veut pas...
Je pense que Marc, il nous fait déjà un petit signe dans le coin là-bas, là, l'homme en noir, qui sera tout près de 11 heures. Je pense qu'on se revoit dans un mois, Bernard, le...
Oui, mais peux-tu finir la fête de l'ésotérisme au féminin?
Ben tiens, le sujet de la...
Qu'est-ce qu'on a parlé à l'Université de Montréal de l'ésotérisme au féminin?
Pardon?
Qu'est-ce qu'on a parlé à l'Université de Montréal? Oh bon, ok, je lis la réponse. Elle vient de venir. Je vais vous dire une chose. C'est par les femmes dans le monde entier que le courant de l'énergie passera. Ça fait plaisir aux femmes? C'est par les femmes que l'énergie... Et regardez les sociétés ésotériques, les groupes ésotériques, il y a plus de femmes que d'hommes.